Bien chers auditeurs, week-end dernier, nous avons étudié un beau sujet concernant un noble prince de paix. Ce titre a été donné en comparaison avec un autre prince qui était lui un délinquant, le prince Akab de Juda. Lui, il ne servait pas l'Éternel. Et en son temps, son pays a connu plusieurs guerres. Et même ses sujets, un bon nombre de ses sujets, ont eu l'expérience de la captivité, de l'emprisonnement, du massacre et autres. Par contre, l'autre prince dont on nous a parlé, c'était un prince de paix, quelqu'un sous le gouvernement duquel l'empire prendrait de l'accroissement et chaque enfant de Dieu deviendrait un chérubin de la justice à la gloire et du Seigneur. Pour maintenant, il est question pour nous de se mettre à la place de Dieu, une autre puissance ou bien un autre roi qui, dans les temps passés, avait voulu se mettre à la place de Dieu. En fait, c'était de l'orgueil au plus haut point. Et depuis que le péché est né dans le cœur d'un ange puissant, l'orgueil n'a pas respecté les limites du réel chez les anges comme chez les hommes. Ce problème est, on ne peut plus, désolant pour ceux qui cultivent l'orgueil spirituel. Le salut de ces êtres si corrompus ne se trouve que dans les œuvres d'un autre en leur faveur. Quel est cet autre? C'est Jésus, celui qui, humble, bon, plutôt qui apparut comme un simple homme, a vécu comme un homme et est mort, est ressuscité, maintenant est à la droite de Dieu, intercédant pour nous, et qui doit revenir bientôt nous prendre avec lui, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Se mettre à la place de Dieu. Tout récemment, je vous ai parlé du royaume assyrien, royaume orgueilleux, royaume qui a voulu conquérir la terre entière, parce que pour lui, il était le maître du monde. Mais après lui, était venu un autre royaume, car l'empire assyrien a été détruit. L'Éternel se plaît toujours à abaisser ceux-là qui marchent avec orgueil, afin qu'ils ne continuent plus à être un danger, et pour eux-mêmes, et pour leurs semblables. Ainsi, dans cette œuvre de rabaissement, bien dire d'abaissement, Dieu emploie des hommes pour punir les hommes. En d'autres termes, chaque fois, ou plutôt souvent, quand Dieu a un travail extraordinaire à faire avec une communauté à cause des péchés de cette dernière, il emploie aussi une autre communauté d'hommes qui deviennent ses serviteurs, ses bâtons de frappe, ses instruments, ses outils dans la punition des délinquants, même s'ils sont eux-mêmes délinquants et qu'après, ils doivent à leur tour subir leur châtiment. Dans Ésaïe chapitre 13 et le verset 1er, nous lisons Oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amos. Sur une montagne nue, dressez une bannière, élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main, et qu'ils franchissent les portes des tyrans. Au verset 17, voici, j'excite contre eux les Mèdes, qui ne font point cas de l'argent, et qui ne convoitent point l'or. De leurs arcs, ils abattront les jeunes gens, et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leur œil n'épargnera point les enfants. Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée. Elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point sa tente et les bergers n'y parqueront point leur troupeau. Bien-aimés, à travers les âges, nous avons appris que une destruction a été produite dans les temps passés contre cinq villes de la plaine de Chinéa. Mais deux noms sont plus particulièrement connus, ceux de Sodome et de Gomorre. Et en signe perpétuel, ou plutôt en souvenir perpétuel, que Dieu détruit les méchants quand leur méchanceté atteint jusqu'au ciel, la ruine de Sodome et de Gomorre demeure sur la terre sous le nom de la mer morte. Une mer dont la densité de sel est on ne peut plus élevée et dans lequel on ne peut pas nager et aucun poisson ne peut vivre. À cause de cela, chaque fois que Dieu a un travail spécial à faire, comme châtiment particulier à infliger, il évoque le souvenir de Sodome et de Gomorre. Ainsi, bien avant que Babylone eût pris de l'ampleur ou bien de la grandeur parmi les enfants des hommes, l'Éternel a annoncé qu'à sa venue, elle sera détruite. Oui, elle sera détruite. Pourquoi? Nous allons le voir dans quelques instants. Mais ce sur quoi je veux particulièrement attirer votre attention, c'est que l'Éternel emploie des hommes pour punir les hommes. Et dans le cas de Babylone, les instruments de châtiment seront les Mèdes, c'est-à-dire les habitants de la Médie. En effet, cela était arrivé comme c'était prévu, mais je ne vais pas entrer dans les détails maintenant. L'armée ennemie est soulevée de par l'Éternel. Isaïe 13, 3 à 6, Isaïe 14, 22 et 23 sont sont explicites. Isaïe 13, 3 à 6, voici. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Et au chapitre 14, à partir du verset 21, préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père. Qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. J'anéantirai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Bien-aimés, m'écoutez, les paroles sont fortes, extrêmement fortes. Mais le bon Dieu a décidé, il sera. En effet, Dieu avait déjà prononcé un jugement contre la Syrie, qui constituait le plus grand des dangers à l'époque d'Ésaïe. Alors qu'Ésaïe, chapitre 14, versets 24 à 27, réitère brièvement le dessein du Seigneur de briser la Syrie. Les chapitres 13 à 23 traitent principalement d'autres menaces. Babylone étant la plus importante, dotée d'un héritage culturel, religieux et politique de politique ancien et d'une grande richesse, Babylone devint par la suite une grande puissance qui conquit et exila Juda. Mais d'un point de vue humain, à l'époque des Haïts, il n'était pas vraiment apparent que Babylone deviendrait une menace pour le peuple du Seigneur. Pendant la plus grande partie du ministère des Haïts, la Syrie domina Babylone. De 728 avant Jésus-Christ, quand Tiglath-Pileser s'empara de Babylone et en fut proclamé roi sous le nom régnant de Poul, selon 2 rois 15, verset 16 et 1 Chroniques 5, verset 26, les rois assyriens la reprirent plusieurs fois, tels que en 710, en 702, en 689 et en 648 avant Jésus-Christ. Babylone, cependant, allait devenir la grande puissance de la région, celle qui détruirait le royaume de Juda. Comme je viens de vous le dire tout à l'heure, l'ennemi qui combattrait et détruirait Babylone serait des instruments de l'Éternel. C'est pourquoi, dans les temps passés, il y eut des guerres sanglantes, des guerres meurtrières, des royaumes puissants qui se sont soulevés contre d'autres royaumes puissants. Toutefois, nous ne pouvons pas dire que c'était toujours l'œuvre des hommes. Car l'homme n'a pas suffisamment de puissance pour combattre l'homme son semblable, puisque les deux sont également faibles dans le bien et forts dans le mal. L'Éternel emploie des hommes pour punir les hommes. Et bien plus, quand Dieu est fâché, l'homme est entravé. Je le répète, quand Dieu est fâché, l'homme est entravé. Ainsi, dans Ésaïe 13, versets 7 et 8, versets 15 et 16, nous lisons Ésaïe 13, versets 7 et 8, versets 15 et 16, nous lisons « Toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes sont frappés. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux. Leurs maisons seront pillées. Et leurs femmes violées. Voici, j'excite contre les Mèdes qui ne font point cas de l'argent et qui ne convoitent point l'or. De leurs arcs, ils abattront les jeunes gens et ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leur œil n'épargnera point les enfants. » Bien-aimés, c'est vraiment difficile.
Problem communicating with the printer. Black ink is low. Printing started.
Oui. Et pourtant, l'homme n'a pas tiré instruction depuis les temps passés jusqu'aujourd'hui et peut-être même et certainement jusque dans le futur le plus lointain. Jusqu'au futur le plus lointain, l'homme a continué de pécher. Il continuera encore. Il continuera aussi à payer régulièrement les conséquences de son péché. Cependant, n'en tirera jamais instruction, puisqu'il recommencera toujours. La destruction de Babylone, forte qu'elle était, a été aussi une image de la fin du monde. C'est ainsi que, dans Ésaïe 13, versets 9 à 13, versets 20 et 21 et 22, 20 à 22, nous lisons, Ésaïe 13, 9 à 13, versets 20 à 22, nous lisons, voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Les animaux du désert prendront leur gîte à Babylone. Les hiboux rempliront ses maisons. Les autruches en feront leur demeure. Et les boucs sauvages y sauteront. Les chacals hurleront dans ses palais. Et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver. Et ses jours ne se prolongeront pas. Bien, chers amis, la parole de Dieu est fiable, elle est certaine, car Dieu n'est prêt un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. C'est ainsi que Ésaïe 13, le verset 10, prévoit, laissez-moi vous lire, que les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Ésaïe a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ, et c'est dans ce temps-là qu'il avait prononcé et écrit ses paroles. Pourtant, 26 siècles plus tard, c'est-à-dire en 1780, et plus particulièrement le 19 mai, une grande partie de la terre a expérimenté une éclipse de soleil inexpérimentée ou bien jamais expérimentée depuis que le monde est monde et que la terre subsiste en ce bas univers. Un peu plus tard, en 1833, il y eut une chute de météorites et que la Bible désigne par chute des étoiles. Nous autres scientifiquement savons que les étoiles en tant qu'étoiles ne peuvent pas chuter sur la Terre, car une seule étoile suffit pour détruire notre globe. Mais les prophètes, ou plutôt le prophète Ésaïe, c'est ainsi qu'il a pu l'exprimer, puisqu'il a vu ces gros corps lumineux descendre du ciel et tomber sur la Terre. Pour lui, c'était des étoiles. En effet, quand la parole est dite, même si elle prend du temps pour s'accomplir, nous n'avons pas besoin de nous empresser, elle s'accomplira certainement. Oui, elle s'accomplira. De même, il a été prévu dans Ésaïe 13, versets 19 à 22, Ésaïe chapitre 13, versets 19 à 22, que Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorre que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée. Elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point sa tente, et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Les animaux du désert y prendront leur gîte. Les hiboux rempliront ses maisons. Les autruches en feront leur demeure, et les boucs y sauteront. Les chacals hurleront dans ses palais, et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Aujourd'hui, nous savons que les ruines de Babylone sont là, visibles, bien connues de beaucoup, et capables d'être visitées par un très grand nombre, pourvu qu'on puisse en faire les frais. Mais vous me direz, où sont ces ruines? Où se situent ces ruines? C'est en Irak, tout près de Bagdad. Les ruines de Babylone sont bien visibles, exactement comme la parole de Dieu l'avait décrite. Toutefois, les hommes se sont arrangés pour faire du site un milieu touristique. À cause de cela, des mains humaines sont passés au travers pour apporter certaines façons de circulation. Mais aucune maison, non, aucun homme n'a pensé rebâtir Babylone, la Babylone que Dieu a détruite. Ainsi, en 626 avant Jésus-Christ, le Chaldéen Nabopolassar restaura la gloire de Babylone en devenant son roi, commençant ainsi la dynastie néo-babylonienne et participant avec les Mèdes à défaire la Syrie. Son fils, Nabucodonosor II, ou bien Nebuchadnezzar II, fut le roi qui conquit et exila Juda. Mais une question. Quelle fut finalement la fin de la ville de Babylone? En 539 avant Jésus-Christ, quand Cyrus le Perse conquit Babylone pour l'annexer à l'empire médo-perse, selon Daniel chapitre 5, la ville perdit pour toujours son indépendance. En 482 avant Jésus-Christ, Xerxès Ier réprima avec brutalité une révolte de Babylone contre le joug perse. Il enleva la statue de Marduk, le principal dieu, et, apparemment, endommagea des fortifications et des temples. Alexandre le Grand reprit Babylone aux Perses en 331 avant Jésus-Christ, sans livrer bataille. Malgré son rêve éphémère de faire de la ville sa capitale orientale, celle-ci déclina pendant plusieurs siècles. En 198 après Jésus-Christ, le Romain Septime Sévère trouva Babylone complètement désertée. Ainsi, cette grande ville disparut par abandon. Aujourd'hui, des villageois irakiens vivent sur une partie de l'ancien site, mais ils n'ont pas reconstruit la ville en tant que telle. La disparition de Babylone, décrite dans Ésaïe 13, fut une délivrance pour les descendants de Jacob qui avaient été opprimés par elle. Cela se produisit au moment de la conquête de Babylone par Cyrus en 539 avant Jésus-Christ. Même s'il ne ravagea pas la ville, elle commença à décliner et ne menaça plus jamais le peuple de Dieu jusqu'à ce qu'elle devint ce que nous la connaissons aujourd'hui. Ésaïe 13 donne de la chute de Babylone une image dramatique parce qu'il s'agit d'un jugement divin. Les soldats qui ont pris la ville sont les agents de Dieu, selon Ésaïe 13 à 5. L'époque du jugement est appelée le jour du Seigneur. Et la colère de Dieu est si puissante qu'elle affecte les étoiles, le soleil, la lune, les cieux et la terre, selon Ésaïe 13, versets 10 et 13. Amis qui m'écoutez, en lisant Ésaïe chapitre 13, nous remarquons une violence de langage et nous nous posons certaines questions. Pourquoi un Dieu aimant agirait-il de la sorte ou permettrait-il à ces événements de se produire? Sûrement que des innocents souffriraient aussi. Comment comprendre de telles interventions divines? Que nous disent ces textes, ainsi que tous les textes bibliques qui évoquent la colère de Dieu contre le péché et le mal, sur la nature désastreuse de ces derniers? Le simple fait qu'un Dieu d'amour réagisse de cette façon ne témoigne-t-il pas de l'horreur du péché? N'oublions pas que c'est Jésus qui prononce ses avertissements par l'intermédiaire d'Ésaïe. Et parce qu'il a dit, l'Éternel, parole de l'Éternel. Nous savons que Jésus est l'Éternel. Et ce même Jésus qui pardonnera, guérira, plaidera et réprimandera les pécheurs pour qu'ils se repentent. Alors, comment vous-même êtes-vous parvenu à comprendre ce trait de caractère du Dieu d'amour? Demandez-vous également si, en fait, sa colère ne découle pas de son amour. Et si oui, pourquoi? Ou bien aborder ce problème sous un autre angle, celui de la croix, où Jésus lui-même, portant les péchés du monde, a souffert plus que personne n'a jamais souffert, même ses innocents souffrant à cause des péchés de leur nation. Bien, chers amis, on ne badine pas avec Dieu. Il était dit plus clairement, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. En effet, le texte biblique, Ésaïe 13, plus Ésaïe 14, a donné les raisons de cet agissement sévère de la part du Dieu du ciel. Disons d'abord, Ésaïe chapitre 14, verset 4 à 6. Ésaïe 14, verset 4 à 6. Alors, tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, et quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la veille des dominateurs, celui qui de sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui de sa colère subjuguait les nations et poursuivit sans mélangement. Toute la terre jouit du repos et de la paix, en éclate, en chant d'allégresse. Le cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Quelle est la cause de la destruction de Babylone? Elle frappait avec fureur, sans ménagement. Elle donnait des coups sans relâche. En un mot, elle n'a pas usé de miséricorde envers les faibles. Deuxième cause, c'est toujours dans Ésaïe, chapitre 14, verset 12 à 20. Ésaïe 14, verset 12 à 20. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Amis qui m'écoutez, jamais dans l'histoire humaine, on a vu l'orgueil élever la tête avec tant de fierté, avec tant d'arrogance. Un homme qui a voulu être semblable à Dieu. Évidemment, nous savons que derrière cette image, il y a plus, parce que certaines expressions employées ne conviennent point à un homme, mais plutôt s'accordent à l'action d'un certain ange. Cependant, nous voyons l'homme élever si haut ses aspirations qu'il est devenu une représentation de Satan, un type de Satan. Est-ce à dire que nous ne devons pas avoir une certaine aspiration, un certain idéal, un certain but, un certain objectif? Oui, nous devons l'avoir. Nous devons même les avoir. Toutefois, dans les limites de notre nature et en grand respect pour le Dieu du ciel. Tel n'a pas été le cas pour le roi de Babylone. Lui, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, au-dessus sur la montagne de Dieu, et je serai semblable au Très-Haut. Ainsi, Ésaïe 13 donne de la chute de Babylone une image dramatique. Parce qu'il s'agit d'un jugement divin, Jugement divin contre l'orgueil. De fait, les rois babyloniens ne manquaient pas de suffisance. Nous avons l'exemple de Nebuchadnezzar lui-même dans Daniel 4. Nous avons l'exemple de Darius dans Daniel 5. Mais aspirer à être semblable au Très-Haut était au-delà même de l'ego le plus surdimensionné. Si le roi prétendait posséder des lieux étroits avec des liens étroits avec les dieux, il leur était soumis. Chaque année, par exemple, de façon théâtrale, le cinquième jour de la fête du Nouvel An babylonien, le roi devait retirer ses insignes royales avant de s'approcher de la statue de Marduk pour que sa royauté soit confirmée. Déplacer même un dieu inférieur aurait été une idée insensé et suicidaire. Pourtant, nous disons qu'il pensait élever son trône au-dessus des étoiles de Dieu, s'asseoir sur la montagne de Dieu à l'extrémité du septentrion, monter sur le sommet des nues et être semblable au Très-Haut. Alors, qu'est-il arrivé? Tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? En disant cela, il m'est venu à la pensée l'idée d'un homme qui faisait trembler son pays et à l'image duquel les habitants de sa nation gardaient le silence. Devant l'image duquel les habitants de sa nation gardaient le silence. Dès qu'on parlait de cet homme, même les oiseaux des bois avaient peur. Les anolis des champs ne bougeaient pas. Les hommes eux-mêmes prenaient la fuite ou bien se ramassaient dans leur carcasse. Pourtant, environ 30 ans avant la fin du siècle dernier, ce chef est mort. Oui, il est mort. Et, longé dans son cercueil, il paraissait l'être le plus innocent qui fut passé en ce bas monde. Il m'a été donné de le voir. Je l'ai vu. Et était vraiment l'homme qui faisait trembler sa nation, oui, tranquillement transporté dans une bière sur un corbillard, il a été déposé au cimetière comme tous les hommes. Et nous estimons que, aujourd'hui, ces carcasses sont sous la terre, finissant comme ceux de tous les hommes. Mes chers amis, nous n'avons aucune raison de nous laisser emparer par l'orgueil, car nous ne sommes rien. Une fourmi dans notre tympan ou bien à l'intérieur de notre oreille suffit pour nous annuler, nous rendre fous, nous tuer, et alors nous mourrons sans miséricorde, serons enterrés sans compassion, parce qu'au royaume des fourmis, toutes seront allégresses, toutes chanteront gloire, parce que l'une d'entre elles pourrait tuer un homme. Ainsi, une partie de notre étude s'intitule « Le roi de la montagne ». Et c'est là, en raison de Ésaïe, chapitre 13, versets 13 et 14, la chute. Par ailleurs, nous devons nous rappeler que le bon Dieu ne tolère jamais le péché. Partout où il le trouve, il le combat. Évidemment, il prend d'abord patience afin que le pécheur passe de la rébellion à l'obéissance. Mais si ce dernier ne manifeste aucun signe de repentance, le Seigneur va arrêter sa patience pour faire commencer sa colère. C'est ainsi que Judas, qui devrait être détruit par, disons, qui serait détruit par les Babyloniens, devait lui aussi connaître du châtiment. Pourquoi alors? Isaïe chapitre 24, versets 5, 6, 19 et 20 donnent la raison. Isaïe 24, versets 5, 6, 19 et 20 donnent la raison. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple seront sans force, sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances. Ils rompaient l'alliance éternelle. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Mes chers amis, le salaire du péché, c'est la mort. Cependant, avant que cette mort arrive, le bon Dieu appelle les hommes à la repentance, car ce qu'il désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est que celui-ci change de conduite et qu'il vive. C'est pourquoi jour après jour, il dit, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et pourquoi mouriez-vous, maison d'Israël? Cependant, si l'homme répond à l'appel divin, il trouvera grâce. Autrement, il périra. Toutefois, ceux-là qui répondent à l'appel divin trouveront quand même une récompense. Car Dieu prévoit une récompense pour tous les hommes de bonne volonté. De même qu'il châtie, il sait aussi récompenser. De même qu'il frappe, il sait aussi restaurer. De même qu'il punit, il sait aussi rendre la joie. C'est ainsi que nous lisons dans Ésaïe 25. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne. Et Moab est foulé sur place, comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Au milieu de cette mare, il étend ses mains, comme le nageur les étend pour nager. Mais l'Éternel abat son orgueil et déjoue l'artifice de ses mains. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs, il les fait couler à terre jusque dans la poussière. Par contre, il essuie les larmes de ceux qui pleurent. Il bénit ceux qui criaient. Il exauce ceux qui priaient. Et il fait venir dans son royaume éternel ceux-là qui s'étaient préparés à cette fin.